BFM Business, l'heure H, la question du jour.
Laurent Bigorgne, je rappelle que vous êtes directeur général de l'Institut Montaigne. Alors vous publiez plein d'études tout le temps, donc à la limite, vous êtes un couteau suisse, on peut vous interroger un peu. Surtout, on va revenir sur cette étude que vous publiez, mais intéressante. Puis vous avez vraiment compilé les données de tous les budgets des 11 plus grosses villes de France et leur métropole. Vous nous direz un peu qu'est-ce que ça donne. Mm-hmm. C'est intéressant. Un petit mot quand même sur les retraites, parce que là aussi, vous avez publié votre propre analyse.
On va publier dans quelques jours une analyse assez détaillée de la situation en réalité comptable des régimes de retraite français. Je vais être très constant par rapport à ce que j'ai eu la chance de dire sur ce plateau il y a quelques semaines.
Oui, mais allez-y,
j'aurais préféré une réforme paramétrique et une réforme systémique. Pourquoi ? Parce que on a un problème de financement qui est dû à une chose qu'on n'a pas su expliquer aux Français, c'est que le ratio du nombre de retraités par actif ne cesse de se dégrader.
Oui.
Il ne s'améliorera pas dans les années qui viennent. On voit pas d'ailleurs comment il pourrait s'améliorer. Et donc, on est en train de continuer de maintenir envers et contre tout la fiction d'un régime qui serait celui d'un régime par répartition. Quand on regarde, et on a fait dans l'étude que l'Institut Montaigne va livrer, les dépenses de retraite, pour être très pédagogique, c'est 330 milliards d'euros.
Oui.
Seulement, deux tiers de ces dépenses sont assurées par des cotisations. D'ores et déjà, l'État assure un tiers de ces dépenses. On n'est plus dans un régime par répartition. On est dans un régime où l'État, d'ores et déjà, assure le financement du système. Les cotisants ne comptent pour que deux tiers du financement de ce système.
D'accord. En même temps, on voit que cette réforme, et c'est un peu tout un des enjeux, du reste, on a un peu de mal à avoir une réponse précise, c'est est-ce que l'État sort gagnant parce qu'il payera moins de cotisations, notamment sur les régimes spéciaux, ou est-ce que cotisations, mais même aussi le financement direct, ou alors l'État va mettre plus la main à la pâte.
Mais Edwige, c'est une fiction, les 40 milliards que l'État utilise pour financer notamment les régimes spéciaux, les 41 milliards. Si demain, l'État dit « je cesse de faire des subventions d'équilibre », c'est sur ces entreprises, les entreprises dont il est propriétaire, que ça va peser.
Normalement, c'est le cas.
Et donc, à la fin du jour, tout ça reste de la sphère publique. On reste bien dans la sphère publique.
Non, oui et non, parce que
mais si
vous voulez,
il
est actionnaire assez dépendant. Quand il est actionnaire à 100% de la SNCF, on est d'accord.
Mais il en ira de même d'EDF. Qu'on comprenne bien que si on fait porter demain à ces entreprises la charge, effectivement, de devoir prendre des régimes qui auront été négociés post-réforme, qui s'ajouteront au régime général, c'est comme ça en tout cas que Jean-Paul Devoir les avait présentés, ça va peser sur le compte des entreprises publiques. Donc, pour moi, on ne sort pas de l'équation, pour l'instant, d'un État qui ne parvient pas à se réformer, qui ne parvient pas à réformer la sphère publique au sens large et qui s'est lancé dans l'aventure d'une réforme systémique sans avoir préalablement fait le ménage, réorganisé, réformé le bloc public. Et ça, ça ne tient pas.
Oui, les grands équilibres tels que vous allez les dévoiler, mais vous pouvez déjà continuer à soulever un petit peu le voile avec nous.
Mais si on soulève le voile, il y a quelque chose qui paraît très clair, c'est qu'il y aura des perdants dans cette réforme. Les cadres.
Oui.
Alors on va me dire, les cadres, c'est pas très politiquement correct d'en parler, c'est les gens qui sont, dans la définition qu'en donne le gouvernement, au-delà de 120 000 euros de revenus bruts annuels. Très bien.
Ça, c'est clair.
En réalité, c'est les gens qui tiennent l'économie productive de ce pays. C'est les gens qui prennent les risques, c'est les gens qui travaillent énormément. Quand on regarde et quand on simule, on se dit que la perte pour eux, par exemple à 200 000 euros de revenus, pourrait être à peu près 50% de ce qu'ils touchent aujourd'hui. Et quand on nous dit, mais vous savez...
50%, bah oui, c'est assez logique.
Mais c'est assez logique.
Oui.
Et moi, j'ai des craintes. La taxe dont on nous dit qu'elle sera à hauteur de 2, ou qu'elle serait à hauteur de 2,81%.
Oui.
Mais c'est comme la CSG, cette histoire. Une fois qu'on aura instauré, elle ne cessera d'augmenter.
Bah oui, mais tu vois, c'est ce que demandent déjà les syndicats.
Mais bien sûr. Et comment ensuite fera-t-on au niveau de chaque entreprise? Est-ce qu'on va laisser sur le différentiel? Est-ce que ça va être du salaire? Est-ce que ça va être un abondement de perco? Si c'est du salaire et donc du pouvoir d'achat, il passera par le prisme de l'impôt sur le revenu. Il passera par le prisme des charges.
Oui,
et donc,
surtout,
en réalité,
quelle
sera la marge à épargner disponible pour les cadres dont on parle? Donc je crains
c'est
que...
C'est pour ça que certains, parce que j'ai déjà posé la question, parce que je pense que vous avez raison, c'est un des points clés. Alors, vous me direz, ça ne concerne que très peu de monde, c'est la
bien
réponse
sûr.
Qu'on m'a faite.
Mais ça concerne juste les gens qui font tourner l'économie de ce pays.
Oui. À ce moment-là, il faut il faut déplafonner le plafond justement de qui permet l'ouverture de Perco à la sauce privée.
Oui,
quoi.
On va être, enfin, on est tenu si on fait ça d'être très cohérent, de défiscaliser, de décharger pour inciter énormément les gens à investir dans un contexte où, je le redis, s'agissant de la capitalisation, le pari n'est pas complètement évident. Ça a été rappelé il y a un instant, compte tenu du contexte macroéconomique et du environnement de taux dans lequel on se trouve. C'est-à-dire faire le saut sur la capitalisation à un moment où objectivement il y a quasiment plus de taux d'intérêt, c'est un pari audacieux.
Et donc la conclusion de votre enquête, c'est quoi ?
Ben, c'est que contrairement à ce qui peut être dit ici et là, notamment sur les besoins de financement, il y a des besoins de financement à court terme. Il y a des besoins de financement
mais
court terme.
Mais qui sont supérieurs à 12, parce que le chiffre avancé est 12 milliards, après certains contestent. Disant finalement, les équilibres financiers, il y a beaucoup d'économistes.
Bien sûr.
Bon, Laurent Berger, évidemment, mais il y a beaucoup d'économistes.
Mais nous, on sera plutôt autour d'une quinzaine de milliards, oui.
Et comme, enfin, à ce moment-là, votre équation,
mais
vous la
notre équation, elle est simple, hein, c'est de dire qu'une réforme paramétrique qui permet l'allongement de la durée du travail, compte tenu du différentiel qu'a la France par rapport à ses voisins européens, est la seule mesure de bon sens, est la seule mesure qui rapidement permet d'assurer un équilibre, et d'assurer même un équilibre un peu automatique du système, dès lors qu'on accepterait de renvoyer à des mesures quasiment automatiques en matière d'allongement de la durée au travail, indexée sur l'allongement de la durée de vie.
Est-ce que justement, il n'y a pas un côté un peu CQFD, c'est-à-dire que pour l'Institut Montaigne, j'ai envie de dire bien sûr qu'il faut allonger l'âge de départ à la retraite.
Ah oui, ça, il ne faut pas augmenter les cotisations, et puis je me vois mal expliquer aux retraités qu'on va aller amputer le niveau de leur pension. Donc, il n'y a pas 40 paramètres dans le système Edwige. Il y en a 3. Il y a combien de temps je travaille, combien je touche, quel est le niveau de ma cotisation, et puis, in fine...
Le niveau des retraites.
Voilà. Exactement.
Oui, mais c'est sûr, c'est toute l'équation. Donc, certains disent, en fait, les entreprises, comme elles vont payer par ailleurs moins de cotisations patronales, elles peuvent augmenter les cotisations retraites.
Oui, mais on en revient à un des problèmes français, qui est la compétitivité prix de notre système. Et dans un contexte où on voit très bien que les difficultés chinoises vont sans doute induire des mesures de dévaluation en Chine, on voit très bien qu'il y a des mesures non coopératives qui vont être prises en Angleterre post-Brexit. C'est le nez comme au milieu de la figure que les choses apparaissent. Et donc, est-ce qu'on a véritablement besoin de dégrader en ce moment la compétitivité prix de l'industrie, de l'économie française? J'en suis pas certain. On a à peine recouvré un certain nombre de situations grâce au CICE. Est-ce qu'on a envie de dégrader ce qu'on a recouvré? Non.
Sur la question, juste une dernière question, après on parle sur les municipales. Question des pénibilités. On voit bien que tout le débat, c'est savoir est-ce qu'on le fait, les critères de pénibilité, quels qu'ils existent. Bon, ils ont été retirés parce que difficilement compatibles avec le fonctionnement d'une entreprise. À ce moment-là, il y a d'autres qui disent bon, on va faire ça au niveau des branches. A priori, c'est ce qui va se passer. Les entreprises disent non, c'est impossible aussi. Vous, où est-ce que vous situez le bon niveau pour juger le critère de pénibilité qui est important pour une retraite anticipée?
Le critère de pénibilité, d'abord, il ne faut pas en donner une définition extensive à l'infini, hein, parce qu'après tout, si j'étais un peu cynique, je pourrais vous dire que travailler est pénible. Il faut faire très attention.
Non, au contraire, c'est un projet de vie, selon Geoffroy Roux-de-Bézieux.
Il faut faire très attention à ce qu'on peut expliquer et raconter, parce que, par ailleurs, on est en train de parler à des entreprises, que se passera-t-il dans la fonction publique? Et le jour où l'État, qui est le premier à mal actionner les obligations qu'il impose aux entreprises à ses propres dispositifs, qu'on fait un apprentissage, les stages, etc., le jour où l'État devra se l'appliquer, bon courage.
Et donc, rapidement...
Mais c'est au niveau de l'entreprise.
Au niveau de l'entreprise.
C'est au niveau de l'entreprise.
D'accord.
Ensuite, toutes les entreprises n'ont pas la même taille.
C'est clair. C'est plus compliqué, notamment pour les petites PME.
Mais le problème, c'est que si on fait au niveau de la branche, ça s'imposera par extension à toutes les entreprises de grande branche, et toutes n'auront pas la même solidité vis-à-vis de ce type de dispositif.
C'est clair. On dit quand même un mot sur les municipales, après tout. C'est intéressant. Puis en plus, c'est pour ça que je vous avais demandé de venir. C'est une étude que vous avez faite sur les 11 plus grosses villes de France.
Les 11 plus grosses métropoles.
Voilà, et métropoles. Qu'est-ce qui en ressort? Ça va mieux quand même, non?
Ça va mieux en trompe-l'œil. Ça va mieux au sens où on n'est plus sur la dégradation des ratios financiers de ces grandes villes, de ces grandes métropoles, comme ça pouvait l'être en 2014. Mais cette situation s'est faite au détriment de l'investissement. C'est-à-dire que si aujourd'hui un certain nombre de grandes villes affichent un profil d'endettement qui est meilleur, une situation financière qui est meilleure, ça s'est fait le plus souvent au détriment de l'investissement, à un moment où on demande aux villes de devenir smart, s'agissant de la mobilité, on leur demande de devenir aussi plus propre, on leur demande de devenir plus environmental friendly, et donc il y a une contradiction un peu dans les termes, tout simplement parce qu'on continue de voir la masse salariale dans un certain nombre de villes dérivée, hein, augmenter. C'est le cas par exemple à Nice, qui nous préoccupe pas mal, qu'un certain nombre de villes sont arrivées à des niveaux d'endettement importants. J'ai en tête Paris, Lille et Marseille, vous retrouvez tout ça sur institutmontaigne.org, et que le mouvement n'a pas tellement été un mouvement d'économie, il a été énormément un mouvement de transfert vers les métropoles. Et le mouvement est double. J'ai transféré des compétences et des charges vers la métropole, d'une part, donc je fais payer autour de moi une partie de l'addition, et d'autre part, j'ai beaucoup moins investi que par le passé. Alors, il y avait de l'investissement public qui ne menait à rien et qui coûtait en fonctionnement, par ailleurs, mais il y a de l'investissement public dont on peut estimer qu'il est utile quand la ville devient plus intelligente et plus connectée.
Ouais. Et il y a tout l'aspect aussi transformation écologique, parce que là aussi ça coûte cher, mais là il faut qu'on s'arrête, donc vous reviendrez nous voir avant les élections municipales.
On pourra parler de transition écologique qui effectivement n'est pas gratuite.
Non, n'est pas gratuite et ça coûte même très très cher, et on sait que c'est un des sujets aussi sur lequel vous travaillez beaucoup à l'Institut Montaigne. Merci.
Merci à vous.
Merci d'avoir été avec nous. L'étude sur les retraites, bon, ça y est, on a les grandes lignes grâce à vous. C'est dans 3 jours, c'est ça?
C'est dans une petite semaine.
Une petite semaine. Merci beaucoup. Dans
Merci
un instant, on continue à parler des retraites avec l'ancien patron de Force Ouvrière. J'aime bien le mot patron et Force Ouvrière. Ça lui fera plaisir. Jean-Claude Maillet, notre invité, l'invité du Club de l'Heure H.
BFM Business, le Club de l'Heure H.
Notre invité Jean-Claude Mailly, ancien secrétaire général de Force Ouvrière, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être là. J'ai envie de faire un exercice, je sais que vous n'aimez pas cet exercice Jean-Claude Mailly, mais je vais quand même tenter. C'est-à-dire, imaginez, aujourd'hui c'est donc le début de la conférence de financement, où on va, il y a deux parties, il y a la partie combien, et puis il y a la partie gouvernance, comment la gouvernance du système. Puis d'autre côté, évidemment, il y a l'Assemblée nationale qui commence les débats. Jean-Claude Mailly, si vous étiez assis autour de la table de négociation, là, en tant que encore patron de secrétaire général de Force Ouvrière, vous seriez dans quel état d'esprit?
Je ne serais pas content. Parce que je ne pense pas qu'on va régler les problèmes. Enfin, regardez, sur la conférence de financement qui est convoquée parce que du côté de Matignon, on dit qu'il y a un problème suite au rapport du Conseil d'orientation des retraites de l'ordre de 12 milliards. Comment on peut trouver 12 milliards? 12 milliards, c'est... Si c'est vrai, hein, non, c'est pas sûr. C'est dans le système actuel. Donc on va discuter d'un truc théorique, sachant que la réforme qui est envisagée, on ne sait pas combien elle va coûter. Et elle va coûter beaucoup plus que ça.
On n'en sait rien.
Si, vous, il y a quelques... Oui, on n'en sait rien, mais on a quelques éléments de réponse.
Laurent Berger de la CFDT dit, ben non, en fait, il n'y a pas de problème d'équilibre financier.
Il n'y a pas le feu, comme on dit.
Il n'y a pas le feu au lac, alors.
Non, il n'y a pas le feu au lac. Non, mais vous savez bien comme moi que partie d'un sujet, qu'on soit d'accord ou pas avec la réforme, de caractère, je dirais, sociétal, ça a été percuté au printemps dernier par un caractère financier d'une réforme qui se voulait sociétale. On est devenu sur une réforme budgétaire. Et ça fait des courts-circuits, ça continue à faire des courts-circuits. Avec Laurent Bigande, vous évoquiez, par exemple, l'histoire des trois plafonds. Le fait de limiter à 3 plafonds.
Là, c'est pour les cadres.
Oui, pour les cadres, oui. Ça veut dire que ceux qui étaient au-dessus de ces 3 plafonds, donc ils sont 300 000 à peu près, ils ne sont pas énormes en nombre, ceux-là, ça va faire perdre sur une dizaine d'années de l'ordre de 50 milliards d'euros. Ce n'est pas rien en cumulé.
Sur une dizaine d'années, parce que sinon, c'est 3 milliards par an.
Non, mais 4 milliards par an. Oui, non, mais 4 milliards par an, sur rien que cette affaire. Et ce n'est pas pour ça que les entreprises ne paieront pas, parce que ces cadres supérieurs-là, ils vont demander à avoir bénéficié d'un système de type capitalisation, c'est évident. Ce sont des salariés qui sont sur le marché international, qui risquent de se faire piquer par d'autres entreprises. Enfin, voilà, je donne cet exemple. Donc, on discute de 12...
Jean-Claude Mailly qui défend les cadres supérieurs, alors là, oui, là, quand même...
Non, parce que je considère que c'est une erreur, y compris de fond, de les retirer du système, d'une certaine manière, de protection sociale. Ouais. C'est comme, moi, j'avais dit la même chose quand on avait voulu limiter les allocations familiales. C'est un système de solidarité qui doit concerner tout le monde. On ne peut pas en exclure certains, surtout quand on sait pourquoi le gouvernement met 3 plafonds, en fait, hein.
Pourquoi ?
Tout simplement parce qu'ils se sont rendus compte qu'en mettant 3 plafonds, ils couvraient tous les fonctionnaires. Ouais. Parce que s'ils avaient été en dessous de 3 plafonds, ils auraient dû amplifier le système de retraite complémentaire. Et ça, ils ne le voulaient pas. Donc, ça veut dire que dans cette affaire, y compris sur le financement global, ce sont notamment les salariés du privé qui vont payer la place de l'État employeur. Voilà.
Donc, c'est important parce que moi, j'arrive toujours, excusez-moi, je réinsiste. Pourquoi ça couvre tous les fonctionnaires? Parce que tous les fonctionnaires ne gagnent pas trois fois le plafond de la sécu.
Ils gagnent tous en dessous de trois fois le plafond.
Oui, en dessous. Alors.
Ben oui, mais quand vous mettez un seul régime. Oui. Avec trois plafonds, cette caisse nationale va couvrir tous les fonctionnaires. Si vous laissez un plafond comme aujourd'hui, l'État aurait été obligé de compléter le régime complémentaire des fonctionnaires, ce qu'il ne veut pas. Parce que, en fait, en termes de gouvernance, c'est plus que l'étatisation. Moi, ce système-là, c'est la soviétisation.
Pourquoi ?
L'État a tous les contrôles en main. L'État, demain, il y aura une caisse nationale où, si j'ai bien vu, ce sera des strapontins pour les uns et les autres. In fine, ce ne sera pas le conseil d'administration qui aura le dernier mot. Les caisses actuelles...
Ça, ce n'est pas encore décidé, justement.
Non,
ça fait
projet.
Partie de la...
Oui. Oh, attendez, c'est le projet tel qu'il est écrit. Après, on verra comment il va évoluer. Hein, mais projet tel qu'il est écrit. Les caisses régionales, ce qu'on appelle les CARSAT, qui sont les caisses régionales de sécurité sociale, qui ont une personnalité morale, qui ont des conseils d'administration. Demain, ça devient des filiales de la caisse nationale. Elles perdent la personnalité morale, par exemple. Voilà, c'est un système soviétique. Voilà. Donc ça veut dire que
Jacobin.
Ouais, c'est plus que jacobin. C'est une volonté. Oui, on sent très bien qu'il y a une volonté de tout contrôler. Voilà. Moi, je préfère un système. C'est pour ça que j'aurais été critique si j'avais participé. Je préfère un système qui était, par exemple, à un plafond avec des complémentaires et pour tout le monde et qu'on mette des règles identiques. Oui, là, on est en train de tout étatiser. Je trouve pas ça bon. Moi, je ne pense pas que l'État soit réputé comme étant le meilleur gestionnaire.
Non, ça c'est clair. La retraite par capitalisation. Est-ce que pour vous? En plus, vous côtoyez maintenant des chefs d'entreprise, etc. Est-ce que pour vous, ça reste un gros mot?
Ça existe. Hein, dans les entreprises,
ça existe surtout chez les fonctionnaires avec la préfond.
Il y a la préfond, mais dans les grandes entreprises, vous avez des troisième niveaux de retraite. Hein, vous avez le régime général, les retraites complémentaires par répartition et un troisième niveau de capitalisation. Hein, ça avait été notamment mis en place par Madelin à une époque, etc. Donc ça existe.
Tout petit, pas
de manière. Aussi bien pour faire un fonds de pension, il faut 10 ans minimum. Donc ça répond pas aux demandes, si demande il y a et si exigence il y a en termes de financement. Mais on y va d'une certaine manière.
Parce qu'en plus, quand vous regardez...
On y va de manière à la fois pour les cadres supérieurs, puisqu'ils seront obligés,
et pour tous les salariés qui sont les principaux, souvent actionnaires de leur entreprise. Donc c'est une forme de capitalisation.
Ah non, l'actionnariat, c'est autre chose.
Oui, mais...
C'est autre chose. Non, mais la loi PACTE va contribuer à développer, y compris dans les PME, l'épargne retraite. Donc c'est pas un fonds de pension, c'est une forme de capitalisation. Ça existe dans les entreprises, on n'a pas d'opposition sur ces questions-là. Mais on n'est pas dans une logique de fonds de pension qui serait tout à fait autre chose.
Mais est-ce que cette conférence de financement, finalement, il a eu raison, Laurent Berger, de la demander ?
La difficulté, je pense, pour Laurent Berger, c'est qu'à la fois, ils sont depuis le début pour un système de retraite par points. Hein, ils ont été un des initiateurs
du système.
Oui, bien
sûr, c'est une grande différence avec vous, avec Force
Ouvrière. Ça, c'est une différence notable qu'on avait. Et là, aujourd'hui, pour en sortir, c'est pas évident, parce qu'en même temps, parfois, il durcit le ton, etc. Enfin, il met l'accent. Ouais. La pénibilité, c'est un vrai dossier, c'est vrai, mais c'est pas la contrepartie d'un régime par points, quoi. C'est un élément du dossier. Hein,
C'est un des points clés, quand même, la pénibilité, puisque justement, la question de l'âge d'équilibre, c'est de savoir qu'est-ce qui se passe pour les gens qui ont des carrières longues ou des carrières pénibles.
Oui, ou des métiers durs,
oui,
ça existe.
Des carrières pénibles ou des métiers difficiles.
Oui, là-dessus, effectivement, il faut revoir le système tel qu'il existe. Il faut favoriser, selon moi, la négociation dans les branches, d'activité, notamment revoir un peu les critères, etc. Ça, ok, il faut le faire. Et il faut faire de la prévention aussi. Il faut mieux éviter que les gens arrivent cassés à 50 ans. Hein, donc, et c'est vrai dans toute une série de secteurs.
Que faudrait-il comme argument de la part, cette fois-ci, vous voyez, je vous demande d'inverser le rôle, que faudrait-il comme argument pour un gouvernement, ou pour le gouvernement, pour faire passer le dossier d'allongement de la durée de la retraite, de l'âge d'équilibre. Qu'est-ce qu'il faudrait? Parce qu'on voit bien, à l'étranger, partout, c'est 64, 5, 7. Qu'est-ce qu'il faudrait faire comme pédagogie?
Non, mais attendez, vous voyez bien qu'en cette affaire, c'est une question d'hypocrite. Dans cette affaire. Pourquoi ? Parce que ce que dit le projet de loi, c'est qu'il y aura un âge d'équilibre.
C'est l'article 10.
Et qu'il évoluera, cet âge d'équilibre, en fonction de l'espérance de vie, de l'évolution de l'espérance de vie. Ça veut dire que si l'espérance de vie continue à augmenter, ce qu'on peut souhaiter d'une manière générale, ça veut dire que l'âge d'équilibre augmentera. Ça veut dire que c'est une tentative qui n'a jamais marché dans les autres pays. Hein. Une tentative de réglage automatique du problème des retraites. C'est ça, ce que les Suédois, à leur manière, ont essayé, qui n'a pas marché. Moi, surtout, ce qui m'apparaît très important, c'est qu'est-ce que le gouvernement doit dire pour que son projet soit accepté. Et là, j'avoue que je suis sec. Parce que qui soutient ce projet aujourd'hui? Vous avez bien entendu la majorité, avec quand même certains députés qui se posent des questions. Vous avez le président de la République, vous avez le gouvernement, et après, il y a qui? Les salariés, majoritairement, ne le soutiennent pas. Plus ou moins, les syndicats, avec des réserves pour certains et contre. Les non-salariés soutiennent pas. Qui soutient ce projet aujourd'hui?
Oui, mais parce que justement, il faut faire de la pédagogie sur l'âge.
Alors donc, on prend le temps de faire de la pédagogie. Et on n'a pas à se précipiter.
Mais les syndicats, ils évoluent pas beaucoup sur la question d'âge, justement.
Attendez, mais est-ce que c'est effectivement utile? C'est quoi l'âge moyen de départ? L'âge moyen de départ dans le prix. Moi, j'ai 66.
Oui, donc vous avez de partir la retraite, et en même temps, vous voyez bien que vous êtes complètement capable de travailler encore.
Mais bien sûr, c'est pas. Si on en a envie. Mais attendez, je vous rappelle que dans le privé, un salarié peut rester jusqu'à 70 ans. Hein. Il faut qu'il reformule la demande tous les ans à son employeur. Si l'employeur ne veut plus qu'il reste, il est obligé de le licencier. Hein, ça, c'était Xavier Bertrand qui avait mis ça en place à l'époque. Ça, moi, je trouve ça très bien. Si c'est un choix de l'individu. L'âge moyen aujourd'hui de départ dans le privé, il est au-dessus de 63 ans. Donc, ça évolue ce genre de choses.
Donc, on peut mettre avoir un âge pivot à 64 ans, c'est pas un drame.
Oui, mais on peut pas dire. Oui, mais on peut pas dire. Un, on fera une réforme, on ne touchera pas à l'âge, c'est pas une réforme financière, et un an après, faire tout le contraire. À un moment donné, il y a un problème de crédit, il y a un problème de confiance.
Il y a un problème de méthode, en fait, plus.
Depuis le début, il y a un problème de méthode sur cette affaire. Hein, et je vois bien, se présenter comme une réforme plus juste, plus équilibrée, s'ils n'arrivent pas à convaincre de ça, c'est qu'il y a vraiment un problème.
Ah oui, mais vous savez bien, toutes les réformes ont conduit tout, vous avez tous conduit dans la rue, vous étiez là pour le coup, vous étiez à poste à la force ouvrière, sur les réformes Fillon, les réformes même Balladur,
la réforme. C'est quoi la différence, là? La différence, c'est que, y compris, par exemple, la dernière, qui a porté de 60 à 62 ans, les syndicats sont descendus dans la rue, n'ont pas gagné à l'époque, c'est passé, on est passé à autre chose. Là, on passera pas à autre chose. Y compris si à la fin, il... Non, quand je dis on passera pas à autre chose, pourquoi? Si à la fin, il passe, par exemple, avec un 49-3, ce que je pense qu'on ne peut pas exclure compte tenu du contexte, après, il y a tout le reste. Il y a la mise en œuvre de la réforme.
Oui, mais il y a encore 20 ans pour le mettre.
Oui, non, mais attendez, le nombre de problèmes à régler. Je prends un exemple.
Attends, j'exagère.
Les salariés de l'AGIRC Arco doivent intégrer la Caisse nationale de sécurité sociale avec les salariés de la sécurité sociale. Il y a des écarts importants de l'ordre de 25% dans les conventions collectives. Comment on règle ce problème? Est-ce qu'on aligne tout le monde vers le haut? Est-ce qu'on aligne les 120 000 salariés de la sécurité sociale
vers le haut? Dans les régions, on va aligner vers le haut. Alors que
voilà. C'est un exemple parmi d'autres. Ouais. Moi, je me souviens avoir géré ça.
C'est pas ça qui va bloquer. Réforme qui est peut-être nécessaire.
Non, moi, je pense qu'il y avait des choses à faire. Moi, je ne pense pas qu'il y avait urgence. On est parti d'un slogan de campagne et d'un entêtement par la suite. Je ne pense pas qu'il y avait urgence sur cette affaire. S'il y a des problèmes financiers, on n'est pas obligé de les prévoir 10 ans avant et on les traite quand on doit les traiter, comme on faisait dans les retraites complémentaires. Mais on n'était pas obligé de faire une usine à gaz comme ce qu'est ce projet de loi.
Merci à vous. Beaucoup. On voit qu'on n'est pas encore sorti de l'auberge. Merci beaucoup Jean-Claude Maille d'avoir été avec nous. Donc l'ex-secrétaire général de Force Ouvrière. Dans un instant, c'est une des stars de l'économie numérique. Elle défend les femmes. C'est pour ça sans doute qu'elle l'a, mais pas seulement bien sûr. Céline Lazor, qui était la présidente du conseil de surveillance de Litchi. Litchi, c'est elle-même aussi qui l'a créée. À tout de suite.
BFM Business, midi, l'heure H. L'invité avec Edwige Chevrillon.
Notre invité, ça fait longtemps que je voulais la recevoir, Céline Lazorte. Merci d'être là. Vous êtes, faut-il le rappeler, la fondatrice et maintenant présidente du conseil de surveillance. Ça fait un côté un peu pompeux.
Exactement.
On a plus habitué à ça pour les entreprises du CAC 40. De Litchi. Litchi, tout le monde connaît, tout le monde qui a fait les cagnottes en ligne. Avec une actualité, on reviendra là-dessus sur les cagnottes qui sont pas toujours, enfin, qui sont sollicitées, mais qui sont peut-être pas toujours formidables. On en dira un mot. Vous êtes business angel. Vous investissez dans combien d'entreprises aujourd'hui?
À ce jour, j'ai investi dans plus de 30 entreprises, dont un tiers créé par des femmes.
Oui, ça c'est. Ouais. Vous êtes justement une des fondatrices de Sista, le mouvement, le collectif Sista, ouais. Qui promeut la parité homme-femme dans le secteur du numérique. Et
qui veut faire émerger en fait vraiment un écosystème de leaders diversifiés. Ça c'est notre mission.
Oui, et on va voir que c'est pas si, pas si facile. Quand on regarde les études du BCG ou alors de McKinsey. On a même envie de s'arrêter là tout de suite.
Exactement.
Mais non, on va continuer. Et puis donc, vous venez d'être nommée conseil d'administration de la SNCF. Mm. Juste, pourquoi ?
Alors, c'est pas à moi qu'il faudrait poser la question.
Qu'est-ce que vous incarnez, donc, une femme dans
probablement,
le secteur du numérique ?
Le secteur du numérique, évidemment la jeunesse, la féminité. Et puis surtout, je pense, en tout cas, dans mes compétences, une bonne compréhension de l'expérience client, des problématiques attendues par les clients. Probablement une transition digitale qui est déjà amorcée par la SNCF, qui est un enjeu important.
Oui. Et qu'est-ce qui vous a, et vous, qu'est-ce qui vous a séduit ? D'abord, comment vous avez été contacté ? C'est Jean-Pierre Farandou, le nouveau patron de la SNCF, qui vous a contacté ?
Oui, et Bercy, bien sûr, puisque aujourd'hui, c'est une entreprise publique, la SNCF. Et je trouve que c'est le challenge qui est intéressant pour moi. Farandou, il a dit au premier conseil d'administration, il y a l'urgence du long terme. J'ai adoré cette formule. On doit construire le plan à 10 ans, cette transition humaine, cette transition digitale, l'ouverture des marchés à la concurrence. Donc, il y a un véritable enjeu. Et je me suis dit qu'effectivement, mes compétences, mon profil pouvaient apporter à la SNCF.
Ouais. L'expérience client, il y a du boulot, j'ai envie de dire, à la SNCF, non ?
Oui, en même temps, je trouve qu'il y a plein de choses qui ont été bien faites. On l'a vu notamment pendant les grèves. L'outil d'information a été très utilisé de voyageurs SNCF, donc pour comprendre si son train était à l'heure ou pas, si son métro était confirmé. Donc, il y a des outils que le digital peut permettre d'apporter en termes d'expérience consommateur qui sont, à mon avis, intéressantes et qui seront utiles et qui permettent cette transition pour cette entreprise dont on le voit, qui est en phase vraiment d'évolution.
Alors, vous connaissez effectivement cette expérience-là, puisque Litchi, aujourd'hui, vous l'avez créé en 2009 avec vos petits bras. Hein,
exactement.
Bon, vous l'avez vendu, ce qui est peut-être un peu dommage, sans doute un des travers, même si vous restez actionnaire, je crois, à hauteur de 14%, quelque chose comme ça.
Alors, le capital a effectivement évolué, mais surtout, en fait, je pense que ce qui est important dans l'expérience de Litchi, c'est que moi, j'ai démarré toute seule, puis l'entreprise a grandi. J'ai choisi un partenaire en choisissant le Crédit Mutuel Arkéa, exactement, en 2015, parce que je crois que moi, j'avais envie d'une histoire qui me dépasse, d'un service qui soit le plus largement utilisé possible. Litchi aujourd'hui, c'est 14 millions d'utilisateurs.
Voilà, c'est bien avec la SNCF, c'est 14 millions de clients quand même.
Exactement.
Donc là,
oui, ça fait... Exactement. Oui, donc on a quelque chose qui est assez massif. Et effectivement, j'ai trouvé avec le Crédit Mutuel Arkéa un partenaire qui soit vraiment celui qui nous permette d'avoir une vision sur du long terme. Et puis moi, après plus de 10 ans, j'ai choisi aussi de passer la main opérationnelle. Donc j'ai souvent l'habitude maintenant de dire que j'ai un métier de monsieur du double de mon âge, puisque je suis présidente du conseil de surveillance de l'entreprise que j'ai créé il y a 11 ans, ce qui n'est pas très habituel à 37
ans. Oui, et en plus,
ans.
Vous avez quel âge maintenant ? Vous avez
37, je viens d'avoir 37
ans. Voilà. Ouais. Donc, enfin, ça fait bizarre, quoi, vous voyez, je veux dire...
Non, mais tant mieux, justement, j'incarne quelque chose de différent et j'ai en tout cas cet espoir de transmettre l'idée que c'est possible, qu'on peut être une femme, qu'on peut être jeune, qu'on peut être dirigeante, qu'on peut être dans un métier finalement qu'on considère être un métier d'homme et aussi réussir.
Ouais. Est-ce que... Alors, là, ça soulève deux questions pour moi. C'est d'abord... un des inconvénients des entrepreneurs français, c'est que souvent, justement, ils veulent réaliser leur capital, ils vendent. Alors qu'ils pourraient avoir des perspectives beaucoup plus importantes et qu'en plus, maintenant, il y a des tas de fonds qui sont là pour aider des entreprises. Je dirais, si vous étiez resté à la tête de Litchi, vous auriez pu développer votre entreprise que font Frédéric Maizella ou d'autres. Hein.
Alors, il y a une chose qu'il faut avoir en tête, les règles du jeu, elles sont simples. Quand un fonds d'investissement investit dans une boîte, il est là pour 5, 6, 7 ans, allez, 10 ans maximum. Donc, il est là sur un espace-temps qui est court. Son objectif, c'est d'investir de l'argent, permettre à l'entreprise de se développer avec cet argent, et puis ensuite, à un moment donné, de ressortir. Alors, ça peut être une sortie minoritaire ou majoritaire. Mais en tout cas, je crois qu'il faut avoir en tête que quand on fait rentrer des capitaux risqueurs et donc des capitaux externes, il y a à un moment donné une liquidité qui doit être apportée.
Oui, mais c'est pour ça, du reste, qu'il y a des fonds, des scale-up fonds. c'est un tout petit peu la démarche, alors peut-être que c'est du bidon, hein, je vais le dire, mais c'est un peu la démarche qu'on a l'impression qu'on est en train de mettre en place. Là, en tous les cas, c'est ce qu'on les explique à France Digital, avec des fonds qui prennent le relais et qui manquaient les 100 millions. Quoi.
Mais il y a un moment donné où, de toute façon, il doit y avoir une sortie. Alors, elle peut être faite avec d'autres fonds d'investissement, elle peut être faite avec un industriel, elle peut être faite par du buy-out, par le management, donc il y a plein d'options possibles. Moi, ce qui me tenait très à cœur, c'est que Litchi reste une entreprise française. On avait eu des offres d'entreprises américaines et franchement, pour mon ego, ça aurait été un peu classe. Mais en réalité, c'est pas ça que j'allais chercher. Moi, ce que je veux, c'est que mon entreprise, elle me dépasse. Je veux que ce service qui est devenu un service très grand public, oui. plus d'un Français sur deux connaît Litchi, l'a utilisé, soit quelque chose d'utile à la société.
Et vous auriez
pour ça, il fallait que ça reste français.
Indépendant.
En tout cas, à partir du moment où on avait levé des fonds, de toute façon, il fallait apporter de la liquidité au fonds d'investissement. J'étais pas du tout pressée par mes actionnaires de sortir. Bien au contraire, c'était en 2015. Ils me proposaient plutôt, la boîte était rentable, d'aller chercher d'autres fonds. On avait envie de financer notre croissance. Et moi, j'ai trouvé que le Crédit Mutuel Arkéa était le meilleur partenaire pour financer cette croissance et pour nous permettre de nous développer.
Ouais.
Mais c'est pas un mal, au contraire.
Aujourd'hui, est-ce que vous auriez fait la même chose au jour d'aujourd'hui, parce que les règles ont changé?
Je pense que j'ai pris le meilleur partenaire pour Litchi.
D'accord.
Ouais. Okay. Et c'était ça qui m'importait, c'était les salariés en premier temps, parce que je tiens beaucoup à mes collaborateurs, les clients de l'entreprise, et puis l'histoire de cette boîte.
Ouais. Cette boîte aujourd'hui, c'est quoi? S'il y aura rapidement, on viendra sur les femmes ensuite. Mais c'est quoi aujourd'hui?
Il y a 14 millions, on l'a dit. Donc c'est deux activités. Hein. C'est Litchi.com, la cagnotte en ligne, 14 millions d'utilisateurs, et Mangopay, qui est donc la partie B2B. Donc en fait, on vend en marque blanche la solution de paiement qui était celle de Litchi à plein d'autres entreprises du secteur de l'économie collaborative, des marketplaces. Donc Mangopay a plus de 3000 plateformes clientes en Europe. Les deux activités jointes ensemble sont dans 6 bureaux différents, disponibles dans 150 pays, et il y a à peu près 160 salariés. L'entreprise est rentable. Et en 2019, Mangopay faisait plus de 4 milliards d'euros de volume d'affaires. Mm-hmm. Donc activité qui avait été créée 6 ans auparavant, donc une véritable croissance exponentielle.
Oui. Donc ça cartonne presque trop, parce que vous avez un peu le retour du succès, la revanche, peut-être, c'est que vous avez. Il y a eu toutes ces polémiques autour des cagnottes, notamment du boxeur des gendarmes, des cagnottes qui sont. Qui sont levés et qui ne sont pas forcément la bienvenue.
Il ne faut pas confondre l'outil et l'usage qui en est fait. Moi, je pense, et j'ai eu ce constat, c'est que Litchi, c'est vraiment le reflet de la société. Dans ce qu'elle a d'extraordinaire, dans ce qu'elle a de différent, dans ce qu'elle a parfois de polémique, mais c'est un outil. Après, moi, je ne suis pas là pour me comporter comme Dieu, je ne suis pas la morale de ce pays. Nous, on a des règles, évidemment, qui sont celles de respecter les utilisateurs, qui respectent eux-mêmes, donc il n'y a pas d'incitation à la haine, il faut respecter les bonnes mœurs.
La fameuse cagnotte du boxeur, du boxeur de gendarme.
Ça fait partie des cagnottes exceptionnelles de Litchi. Alors effectivement, c'est vrai que c'était un moment dans l'actualité où je pense tout le monde était sensible, parce que je crois qu'en tant que Français, on est inquiet et on s'interroge pour notre pays. Et donc ça a cristallisé ce qui était le mouvement des Gilets jaunes. Mais encore une fois, Litchi n'est que l'outil, et ça n'est pas le sentiment qu'il pouvait y avoir d'incompréhension ou démocratique derrière.
Qu'est-ce qui s'est passé du reste, in fine? Vous l'avez remboursé, parce que
La procédure juridique qui est toujours en cours, puisque effectivement la cagnotte a été fermée, et donc il y avait des accords sur auprès de qui devait être reversée cette cagnotte, et donc nous on a saisi le tribunal pour que pas pour réfréner quoi que ce soit, mais parce qu'on ne se sentait pas capable de prendre la décision, et pour que le juge prenne cette décision de savoir à qui doit être reversée cette cagnotte. Et d'ailleurs on remarque que la procédure prend du temps, ce qui montre que c'est un sujet difficile à adresser.
Oui, donc pour l'instant il n'y a toujours pas de... Vous avez combien de cas comme ça? Bon, ça c'est le cas de figure le plus emblématique. Il y a combien de cas?
Ça arrive assez régulièrement, mais encore une fois, je vous dis, c'est le reflet de l'actualité. Et quand il y a...
Vous êtes devenu un tel phénomène de société, si vous-même vous l'avez dit.
Oui.
C'est vrai.
On utilise,
ou on va tous utiliser Litchi.
Bien sûr.
Donc à partir de là, vous êtes confronté à des...
On est confronté, je vous dis, à ce que la société a de plus extraordinaire d'entraide. Il y a quand même 25% des cagnottes Litchi, donc c'est 50 millions d'euros l'année dernière, qui sont à des œuvres solidaires. Donc ça veut dire qu'il y a un un véritable effet de solidarité. Et la générosité, pardon, c'est une façon de montrer qu'on est solidaire d'une cause, d'une personne, d'un sentiment d'aider. Et ça, je trouve que c'est assez fort parce que on se rend compte que finalement, le bien commun peut être à des seins de la société. Ensemble, on s'entraide. Vous allez avoir l'exemple d'une cagnotte qui va être pour soigner un petit garçon. Enfin, il y a vraiment tous les usages possibles.
Et je trouve qu'en ça,
exactement,
un chien,
c'est très
vieux
fort.
Chien,
bien
tout.
Sûr,
oui,
bien sûr.
Et tout. Le perspective de croissance, c'est quoi?
Les perspectives de croissance sont à peu près de 20% pour litchi.com entre 2019 et 2020. Donc, toujours une forte croissance. Et pour Mangopé, les perspectives, elles sont plutôt de 50%, entre 50% et 80% de croissance. Donc, on est toujours sur des phases de très, très forte croissance. 2019, je le disais, c'était 4 milliards d'euros de volume d'affaires. 2018, c'était 2 milliards. Donc, on voit la croissance exponentielle.
Là, j'ai juste une petite question, parce que j'ai interviewé Ada Abos, l'ancien numéro 2 de la Banque Centrale Européenne, Benoît Cœuré, qui maintenant s'occupe de ça, de toutes ces questions-là, auprès de la Banque des règlements internationaux. La crypto-monnaie, pour Litchi, c'est comment vous voyez ça? Parce que ça peut être un atout, ça peut être une concurrence pour Mangopé. Comment vous voyez ça?
Je ne crois pas que ce soit une concurrence, puisque Mangopé, son rôle, c'est de proposer différents moyens de paiement. Donc, nous, on respecte ce que le régulateur nous dit. Le jour où la crypto-monnaie elle est autorisée, bien sûr, on l'acceptera sur les outils et on la donnera à disposition des plateformes, notamment de Litchi et puis des autres. Mais nous, on est dans une position où, effectivement, on est à l'écoute des problématiques soulevées par le régulateur. Aujourd'hui, c'est pas possible en France, donc on s'y contraint.
Quel est le montant moyen de versement à une cagnotte? Vous avez ça?
Ah oui, bien sûr. Une cagnotte privée, donc entre particuliers, en moyenne, c'est 400 euros. Et une cagnotte solidaire, c'est 2500 euros. Et avec des montants, évidemment, importants, plus d'1,5 million pour certaines.
Et au total, il y a eu combien de cagnottes créées?
Ah, j'en ai pas la moindre idée.
J'ai une question, vous voyez, qui me vient.
Pourtant, généralement, on ne me colle pas trop sur les chiffres, mais je suis incapable de vous dire.
Eh bien, comme quoi, j'ai réussi à vous coller.
C'est plusieurs milliers par jour, donc voilà.
Céline Lazorte, on dit un mot de Sista.
Oui, bien sûr.
Ce que vous cherchez à faire, collectif Sista, parce qu'il y a aussi la tribune que vous avez publiée, je crois, il y a une quinzaine de jours, qui a fait pas mal de bruit sur le congé parental. Ouais. Vous étiez 150 entreprises, 105, un peu comme vous, 105, pardon, à vouloir développer un congé parental qui soit plus long pour le second parent. Ouais. Mais d'abord, les femmes, le Sista, qu'est-ce que vous faites? Où est la difficulté? Où est le blocage? Et est-ce que c'est pire pour vous que ça a été pour moi? Voilà.
Alors, Sista, c'est né de mon expérience d'entrepreneur, puis de business angel, on le disait. Donc, j'ai investi dans une trentaine de boîtes dans les 4 dernières années, un tiers créé par des femmes. Donc, moi, je ne voyais pas le problème. Il y a des femmes entrepreneurs, je les finance, etc. Et puis, je me suis rendu compte, à force de les écouter, qu'il y avait un problème. Et il faut bien revenir au moment où j'étais enceinte, je m'ennuyais un peu le dimanche après-midi, et donc j'ai commencé à prendre la liste, vous savez, des entreprises financées par des fonds d'investissement, et puis regarder en ligne si elles ont été créées par une femme, par un homme ou par une équipe mixte. Et au bout du 10e fonds d'investissement, j'arrive à des chiffres terribles, puisque moins de 3% de l'argent du capital risque est destiné à des femmes, et si on cumule femmes et équipes mixtes, on a à moins de 12%, donc en gros 88% d'hommes entre hommes avec des hommes. Et donc je me suis dit, mais en fait, c'est impossible. Et j'en ai parlé avec Tatiana Jama et Valentine de l'Astérie qui sont mes co-sistas, et on s'est dit, il faut qu'on fasse quelque chose. Et on s'est dit cette idée de, il faut compter les femmes pour que les femmes comptent. Donc on a fait faire cette étude qui était le travail que j'avais initié par le BCG et qui est arrivé au même chiffre en Europe. Sur les 10 dernières années, sur plus de 10 000 startups étudiées, c'est des pouillèmes qui sont adressés à des femmes. Or, notre conviction, c'est qu'il n'y a pas de gêne de l'entrepreneuriat et il faut voir l'émergence de leaders diversifiés, parce que sinon, on deviendra des clones les uns des autres. Il y aura une absence de services et de produits inventés. Et puis, la société, elle est diverse. Donc, pourquoi les leaders ne sont pas diversifiés?
Oui, et toujours selon le BCG, je crois qu'au rythme actuel, il faudrait attendre 2090 pour atteindre la parité dans l'entrepreneuriat.
Dans la création d'entreprises.
Ouais. Chez 2090, même pour vous, ça fait loin.
Ouais. Oui, et puis comme je vous le dis, je pense que les femmes ont une façon différente d'entreprendre, et elle n'est pas moins ambitieuse, elle n'est pas moins... Il n'y a pas de raison qu'il n'y ait aucune femme dirigeante aujourd'hui du CAC 40. Il n'y a pas de raison aujourd'hui qu'il y ait si peu de femmes qui soient la tête de leader. Donc, en fait, moi, je pense qu'il faut ouvrir, et l'accès au capital est le levier le plus important pour pouvoir... C'est pas obligatoire de lever de l'argent pour monter sa boîte, mais si on veut construire un leader national et international, il faut du cash. L'argent est quand même le levier le plus rapide.
Mais Alors, Jean-David Chamboret, donc, je reçois aussi beaucoup ici, qui est le dirigeant du fonds Isaïe, qui est un des principaux fonds.
Bien sûr.
Il dit, mais moi, d'accord, j'accepte ce procès, c'est vrai, on a un souci, mais je reçois très peu de projets. Alors, je sais pas où est la poule, où est l'œuf.
Alors, j'ai beaucoup de respect et d'amitié pour Jean-David. Je pense que, évidemment, il y a moins de femmes qui entreprennent que les hommes. Je suis pas en train de dire ça. Moi, je ne veux pas de quotas, je ne veux pas. Ce que je veux, c'est que les femmes, si elles montent une boîte et qu'elles veulent lever de l'argent, elles puissent. Or, aujourd'hui, il y a des freins. On l'a montré, il y a à peu près 15% de femmes entrepreneurs. En réalité, il y a 3% qui sont financées aujourd'hui. Donc, moi, ce que je veux, c'est qu'il y ait juste autant de femmes financées que de femmes qui créent leur boîte. Alors, pourquoi Jean-David Chamboret-Don, il reçoit peu de dossiers de femmes? Alors, tout simplement, pour des raisons qui sont assez évidentes, c'est qu'il y a probablement une communication, et je ne mets pas le doigt particulièrement sur le fonds d'investissement de Jean-David, mais il y a une communication parfois qui est assez masculine. Il n'y a que des équipes d'investissement qui sont masculines. On le sait, il y a plus de 86% des financeurs qui sont aujourd'hui des hommes. Eh bien, la nature humaine fait qu'on fonctionne par similitude. Donc, un homme est plus enclin à financer un homme. Quand il voit une femme rentrer dans la pièce, il y a un bien inconscient. Il y a un bien inconscient qui est humain. Il y a un bien inconscient. Ah, elle va me faire des enfants. Ah, elle a moins d'ambition. Ah, et est-ce que c'est une battante? Donc, c'est ça qu'il faut changer. Et évidemment, une des recommandations de la charte Sista qui a été signée notamment par le fonds de Jean-David Chamboret-Don et plus de 80 fonds français, c'est de s'engager à avoir 25% d'équipes féminines mixtes ou mixtes financées à 2025. Et pour cela, ça passe aussi par avoir des partenaires femmes, donc des femmes qui décident de l'investissement.
Et ça, c'est pas tout récent, ça a quand même quelques mois, Sista, enfin maintenant.
C'est octobre,
octobre. Vous voyez déjà une évolution?
Alors, on voit une évolution. Novembre, oui, décembre, ça fait moins de 6 mois, ça fait quelques mois. Ce qu'on voit notamment, c'est qu'effectivement, il y a une prise de conscience. Il y a la possibilité aussi de se dire, par exemple, est-ce que j'ai pas un bien inconscient? Ah, mais tiens, l'université d'Harvard, elle propose en ligne gratuitement, anonymement, des tests pour tester ses biens inconscients. Ça, on a plein de fonds d'investissement qui l'ont fait. Bien sûr, ça prend 5 minutes. Ouais. C'est facile, vous tapez IAT en ligne et vous allez les trouver. Et ça vous permet de voir quel est votre bien inconscient. Sur la question du travail, sur la question du genre, sur la question de la couleur de peau. Enfin, il y a tout plein de tests disponibles en ligne. Donc ça, on a plein de fonds d'investissement et d'hommes et de femmes qui ont fait ces tests et qui nous ont dit « Ah bah tiens, je ne m'attendais pas à tel résultat ». Donc c'est une prise de conscience. Ensuite, j'ai l'impression aussi qu'on a permis de structurer. Sista, c'est Sista Entrepreneur, mais c'est aussi les Sista VC. C'est plus de 300 femmes VC parce Venture qu'il Capital, y a des femmes. Oui, exactement, merci. Venture Capital, mais ce sont des jeunes femmes. Donc elles ne sont pas dans des postures aujourd'hui décisionnaires. Et en fait, l'idée de se fédérer ensemble nous rend plus forts et nous rend plus fortes.
Ouais. Et ça passe comment?
Moi, j'ai l'impression que ça passe. Après, est-ce que ça passe bien ou mal, j'en sais rien. À la limite, je m'en fiche un peu. Ce que je veux, c'est encore une fois, c'est que les femmes soient libres d'entreprendre, les hommes aussi, et puis la société ensuite, elle est libre de fonctionner comme elle veut. C'est-à-dire que je ne veux pas de quotas. C'est pas une question d'égalité. Pour moi, c'est vraiment une question de liberté, de droit, exactement.
Ouais. Et alors, juste un mot. Pourquoi vous êtes engagée? Ce qui est drôle, du reste, Céline Lazorte, c'est quand on voit. Vous avez créé Litchi parce que vous étiez à HEC et que vous vouliez, c'est un peu comme Mark Zuckerberg, vous n'avez pas encore la même même capitalisation, le même succès. Enfin bon, lui était Harvard, vous étiez à HEC, vous avez voulu faire un cadeau pour quelqu'un et donc vous avez créé, hop, c'est devenu Litchi. L'histoire du congé parental, c'est que vous étiez aussi, même si ça, vous étiez enceinte, vous vous êtes dit, tiens, voilà, je lance ça. Votre vie privée, pour un entrepreneur, une entrepreneuse, ça a beaucoup d'importance, ça donne des idées. Marc Simoncini me disait ça l'autre jour lorsqu'il est venu.
Moi, c'est effectivement souvent le constat de ma vie personnelle que je fais. Vous prenez l'exemple de Litchi, c'était le week-end d'intégration de ma promo à HEC. Le congé parental, enfin deuxième parent en congé paternité, je tombe enceinte il y a un an, j'ai mon petit garçon. Et mon conjoint n'avait droit que au congé légal. Donc en fait, entre les moments où j'étais à la maternité et à la maison, on est resté une semaine ensemble. Et en fait, je me suis retrouvée dans un véritable paradoxe puisque j'étais face à ce petit bébé dont je savais pas bien comment il fonctionnait. Après, enfin, quand on vient d'accoucher, on a quand même un peu un 36 tonnes qui nous est roulé dessus. Et dans cette situation un peu paradoxale où moi, chez Litchi, ça faisait quand même des années que le congé deuxième parent, il avait été mis en place et que les hommes de l'entreprise en bénéficiaient. Donc je me suis dit, mais en fait, pour que moi je me retrouve aussi dans une situation où j'ai mon conjoint à la maison sur un temps qui est important et qui est rare dans la vie et qui est à mon avis quand même un émerveillement et un bouleversement, eh ben il faut que toutes les entreprises, elles mettent en place ce congé deuxième parent. Il faut qu'il soit rémunéré à 100% parce que je ne veux pas qu'il y ait un congé à deux vitesses, et puis il faut qu'il soit au minimum de 4 semaines parce que c'est le minimum de temps pour mettre en place une vie de famille. Et quoi, en moyenne on a 2 enfants par an, donc sur 40 ans et plus de vie professionnelle, qu'est-ce que ça change?
Ouais. Et alors, vous avez, donc ça c'était il y a 15 jours là, une tribune.
Exactement.
On en a beaucoup parlé.
Donc, le Parental Act, ouais. Et donc aujourd'hui on avait, il y a 15 jours, 105 signataires, donc à peu près 19 300 salariés impactés. Ça a été un raz-de-marée, donc on est à ce jour 250 signataires, donc il y a presque 150 entreprises qui nous ont rejoints, plus de 23 400 salariés impactés, donc vous voyez c'est plutôt des PME qui nous ont rejoints. Maintenant j'invite les grands groupes à prendre conscience du fait que c'est bon pour la société, c'est bon pour leur entreprise, donc il faut qu'ils mettent en place ce congé deuxième parent.
Oui, ça c'est un point important, c'est que les femmes aussi elles regardent peut-être plus l'aspect management. Le bien-être de leurs salariés.
Bien sûr.
Oui, c'est sans doute. Les secteurs où vous investissez, c'est quoi?
Alors,
vous êtes business angel,
j'investis
avec des femmes?
Non, pas qu'avec des femmes. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les rencontres humaines, et donc les hommes et les femmes. Mais c'est les gens qui pétillent, d'intelligence, qui ont envie de se battre, qui ont envie d'apprendre, qui ont envie d'entreprendre, de changer le monde. Donc les secteurs, j'investis dans tous les secteurs tant que ça pétille, principalement la tech, puisque c'est les métiers que je connais.
Oui, mais dans la tech, bien sûr, c'est dans la tech. Enfin, ouais. J'imagine. Mais je veux dire, qu'est-ce qui est un peu, où sont les tendances? C'est toujours une question un peu récurrente que je pose parce que c'est intéressant de voir. Où est-ce que ça bouge, quoi? Il y a l'intelligence artificielle, et bien, il y a tous les grands secteurs. Vous?
Bien sûr. Alors, les services, moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Notamment, je viens d'investir, alors ça n'a pas encore été annoncé, mais dans une entreprise qui est liée à la parentalité et dans les services, donc une entreprise tech. Voilà, j'aime les gens qui disruptent notre façon de penser et qui simplifient la vie.
L'écosystème, en conclusion, l'écosystème, il évolue beaucoup parce que je reçois tous les grands acteurs de cet écosystème du numérique, du digital, qui dit quand même, là, on arrive à créer une petite communauté française qui bouge, qui se tient les coudes et qui résiste face aux géants américains ou anglo-saxons. Vous êtes d'accord avec ça?
Je crois que c'est l'exemple du Next 40, c'est-à-dire que oui, on a des entreprises qui performent, on a de plus en plus d'argent à disponibilité pour faire, comme je le disais, des leaders internationaux. L'enjeu, il est là, parce que moi, j'adore notre pays, mais le numérique ne s'arrête pas à nos frontières. Donc, il faut un enjeu européen et international. Et oui, je crois qu'on commence à en avoir les moyens. Ce que je veux, c'est que ce ne soit pas que les hommes qui créent et dirigent ces entreprises-là.
Oui, on a compris le message. Et puis, en plus, vous incarnez bien. Vous êtes un beau porte-drapeau, en tous les cas,
de la diversité.
De ce que vous avez fait.
Tant
puis,
mieux.
En plus, vous avez réussi. Donc, c'est aussi une légitimité. Vous avez la légitimité. Merci beaucoup.
Merci de votre
invitation.
Céline
Lazor, donc, la patronne de Litchi, la patronne de Sistar, celle qui veut défendre la cause des femmes. Mais pas que, mais aussi celle de ses clients et ceux de la SNCF. Voilà, c'était notre invité dans le RH. On se retrouve bien sûr demain 8h15 et puis aussi le RH demain 12h-13h comme tous les jours. Bonne journée.